Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser les questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. Cette semaine, je souhaite la bienvenue à Céline dans la communauté Patreon du podcast. Merci à elle de soutenir financièrement ce podcast. Et si, comme elle, tu as envie de faire partie de cette communauté et d'accéder à des contenus exclusifs, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 37e épisode, je reçois Élise Marsand, présidente de l'association Maman Blues, avec qui nous avions fait l'épisode 21 sur la dépression du passepartum, et Élodie Hémeau, infirmière péricultrice, avec qui nous avions fait l'épisode 29 sur la communication bienveillante. Je suis ravie de les retrouver toutes les deux pour un regard croisé sur les difficultés maternelles. Tu as sûrement déjà entendu une phrase comme « Tu verras, avec l'instinct maternel, ça se fait tout seul. » Ou encore « Dès que tu vas le voir, tu vas l'aimer ce bébé. » Ou encore « Un bébé, c'est que du bonheur. » Toutes ces phrases, que l'on entend encore si souvent, mettent une pression très forte sur les parents, et les mères en particulier. Pourtant, la réalité du postpartum et de la relation parent-enfant est bien différente et souvent beaucoup plus compliquée. Et quand ça se complique, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. C'est de tout cela dont il est question dans cet épisode où l'on parle des difficultés qui arrivent parfois dès la grossesse, de la prise en charge, de l'accès à l'information et même de l'éducation dès le plus jeune âge. On parle aussi des ressources qui peuvent nous aider, de la place du coparent et de la société dans son ensemble. Avant de te laisser écouter l'épisode, je tiens à souligner l'énorme travail qu'a fait l'association Maman Blues avec le gouvernement sur l'application des 1000 premiers jours. Si tu sens que tu éprouves des difficultés maternelles, d'abord, sache que tu n'es pas seule. Ensuite, tu peux désormais passer le PDS, qui est une échelle de scorage de la dépression du postpartum, directement sur l'application des 1000 premiers jours, et tu pourras être recontacté par l'association pour être entendu et orienté. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Élise, bonjour Élodie.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir proposé cet épisode, puisque c'est vous qui m'avez proposé cet épisode et j'en suis ravie. Avec vous, on va parler de la difficulté maternelle ou des difficultés maternelles, parce que ce n'est pas au singulier malheureusement. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre difficulté maternelle et dépression du postpartum, difficulté maternelle et baby blues, et qu'est-ce qu'on met du coup dans difficulté maternelle ?
En fait, je me suis permise de reprendre que nous, on met sur notre site internet concernant la difficulté maternelle, puisqu'on indique que cela recouvre en fait l'ensemble des manifestations émotionnelles, psychiques et somatiques qui surgissent pendant la grossesse ou après une naissance. et dont les effets et les conséquences seront perceptibles tant chez la mère que chez l'enfant. C'est des manifestations qui sont soudaines ou insidieuses, ça dépend, qui sont peu prédictibles. On ne sait pas si une maman va faire une difficulté maternelle. Il y a des facteurs aggravants, mais on ne peut pas prédire qu'une femme nécessairement va tomber dans la difficulté maternelle. Et cette difficulté, elle peut se cristalliser dans des troubles psychologiques ou physiques qui va nécessiter un suivi adapté, approprié. Et la DPP, pour ma part, je pense que c'est un de ces troubles en fait, psychologiques liés à la difficulté maternelle.
Je suis tout à fait d'accord sur le site Maman Blues qui était très, très bien fait. Et on parle de cette image de descente avant la chute, qu'est la dépression postpartum, où vous comparez ça aussi à une inondation et où quand l'eau est partie, la maison est en lambeaux. Et que, voilà. Donc, les difficultés maternelles, c'est aussi tous les problèmes qu'on peut rencontrer qui peuvent amener parfois donc, à la dépression postpartum, pas systématiquement, mais en tout cas, ça peut y amener souvent. C'est quelque chose qui se déconstruit en tout cas et qui nécessite, comme le dit Élise, des soins. Donc c'est un terme qui a été proposé par Jean-Marie Delassus, hein, qui est le père un peu de la maternologie, qui était médecin, philosophe et écrivain. Et donc en fait, la maternologie, c'est tout ce qui est science de la maternité, mais au niveau psychique. Aujourd'hui, on prend beaucoup en compte la maternité physique, mais c'est vrai qu'on va en reparler. Au niveau de la maternité psychique, on a encore des progrès.
Élise, tu disais, ça peut être aussi pendant la grossesse. Souvent, on imagine la grossesse comme un moment idyllique où les femmes sont au top de leur féminité et de leurs cheveux tout beaux et leurs ongles tout beaux, etc. Et on a du mal à imaginer que ça puisse être difficile d'être enceinte. Comment ça se manifeste, la difficulté maternelle, pendant la grossesse ?
En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pendant la grossesse. Alors déjà, on sait que cette période-là, c'est une période de grand remaniement psychique. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui se rejouent. De sa propre histoire familiale, de choses aussi que l'on a pu vivre auparavant, comme des fausses couches, comme un parcours PMA, comme un deuil périnatal. En fait, on n'est pas, on fait pas table rase au moment de donner naissance, on arrive avec tous ces bagages. Et ces bagages-là, ils peuvent avoir un impact fort pendant la grossesse, parce que, par exemple, autour des fausses couches ou du deuil périnatal, il y a toute une angoisse qui va se créer de savoir si on va mener cette grossesse à terme, de savoir si le bébé va arriver en vie, d'arriver à se projeter. Donc, la projection, elle peut être difficile à faire quand il y a déjà des choses difficiles, douloureuses, qui n'ont pas nécessairement été travaillées en plus, parce que les fausses couches, on sait qu'on les travaille peu. on ne mesure pas aujourd'hui encore combien l'impact de la fausse couche est important. Et puis, sur la question, je parlais du deuil périnatal, c'est aussi de ne pas faire un enfant de remplacement. On parle souvent, j'ai réparé ma précédente grossesse, j'ai mon enfant arc-en-ciel, enfin, c'est l'enfant d'après. Et c'est aussi très difficile de se projeter avec cet enfant quand, au préalable, il y a eu la mort et pas la vie. La période de la grossesse, elle peut être extrêmement difficile aussi d'un point de vue physique. Toutes les grossesses ne sont pas idylliques physiquement, loin de là. On dit que ce n'est pas une maladie, mais quand même, parfois, on peut se demander si on n'est pas en plein dedans. Et ça peut être extrêmement impactant. Ça peut générer aussi beaucoup d'angoisse quand les grossesses sont compliquées physiquement. Et même sans être très, très compliqué, il y a énormément d'examens pendant la grossesse. Il y a beaucoup d'informations, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut avoir une alimentation saine. Il y a beaucoup de... Je cherche le terme. Injonction. Ça commence déjà à cette période-là, même en préconceptionnel, mais pendant la grossesse, il faut suivre un parcours bien balisé et ça peut être aussi très anxiogène et très difficile psychologiquement parlant.
Je suis tout à fait d'accord. Déjà, c'est une période de réaménagement profond. Je rejoins tout à fait Élise qui nécessite une vraie, vraie transformation. Donc, et pendant la grossesse et qui va continuer hein, au moment de la naissance de l'enfant. Donc, je rejoins tout à fait Élise. Et en fait, c'est une mobilisation... De l'histoire tout entière et c'est l'inconscient qui est aux manettes en fait. Et c'est ça qui va pouvoir, alors parfois en prénatal et après quand l'enfant arrive, mais du coup c'est les choses qui ne sont pas réglées qui vont venir prendre les commandes, venir mettre la maman à mal et on va voir les signes cliniques après, mais ça va faire écho à l'image aussi qu'on a de la maternité, de quelle manière on se projette hein, entre l'enfant imaginaire et l'enfant qu'on va trouver réel. Et donc il y a une certaine continuité entre l'anténatal et le postnatal. Donc en effet, ça ne vient pas à la naissance de l'enfant. Il y a déjà des choses qui sont en train de se jouer quand la maman est enceinte et qui se prépare. Après, je rejoins Élise aussi par rapport aux injonctions sociétales qui sont et très, très fortes pendant la grossesse et très, très fortes aussi à la naissance du bébé, où on imagine que les aménagements avec la naissance d'un bébé sont relativement superficiels. On doit s'adapter au rythme, évidemment que c'est un être qui est très dépendant, mais on ne mesure pas l'impact du réaménagement et de la mobilisation que ça demande à la maman d'avoir un enfant, enfin, en tout cas chez certaines femmes. Et je dirais aussi qu'au niveau pression sociétale, il y a aussi le fait que c'est difficile à verbaliser tout ça. Et les mères, les grands-mères, vu qu'elles ne verbalisaient pas les difficultés, que ce n'était pas dans l'air du temps, que ce n'est pas ancré dans les sociétés, bien, du coup, elles renvoient une image en plus aux filles qui deviennent mères aujourd'hui ou qui ont été mères il y a quelques années, une image sans faille d'une mère un peu parfaite, très très forte. Et donc, il y a ça aussi qui peut jouer dans les histoires transgénérationnelles et les histoires familiales. C'est le fait que vu que ce n'était pas verbalisé, ce n'était pas dit, et c'est normal d'être un peu débordé, c'est normal de ne pas y arriver forcément bien. Et du coup, ça n'aide pas à prendre la parole et à déculpabiliser les mères qui peuvent ressentir des difficultés.
Et à contrario, je me permettrais, sur les lignées où justement il y a des traumatismes, où il y a eu des choses qui ont été difficiles dans la famille, dans le lien mère-fille ou dans le lien parent-enfant, ça peut aussi ressurgir dans une peur de refaire, d'être la mère qu'on a eue. Et ça peut prendre énormément de choses, parasiter son propre rôle et se télescoper et donc avoir du mal à rentrer dans ce rôle qui nous incombe, là, quand il est là, déjà pendant la grossesse, mais aussi dans le postpartum, et de se dire, j'ai pas envie d'être comme ma mère, sauf que ça prend tellement de place qu'on n'arrive pas à faire le lien sans être dans cet effet miroir.
Et est-ce qu'une femme qui présente des signes de difficulté maternelle pendant la grossesse va être plus sujette à moins bien vivre son postpartum derrière et à avoir plus de difficultés maternelles aussi dans l'accueil du bébé, où il n'y a pas forcément de lien entre les deux, il peut se passer un switch au moment de la naissance. Est-ce qu'il y a un lien ou pas ?
Alors moi, je dirais qu'il peut y en avoir un. Après, ça va dépendre aussi de la manière dont les difficultés maternelles pendant la grossesse, les difficultés de grossesse vont être prises en compte. C'est-à-dire que quels soins, quelle place de liberté de parole on va offrir à cette femme pour régler certaines choses, pour en tout cas lui permettre de comprendre certaines choses. C'est vrai que quand il y a des difficultés pendant la grossesse et qu'il n'y a rien qui est fait ou rien qui est entendu, en tout cas, il peut peut-être y avoir plus de facteurs de risque pour qu'il y ait quelque chose au niveau de la naissance et en postpartum.
En fait, ce qu'on voit, c'est que la prise en charge, l'accompagnement, le soutien qui va être mis en place pendant la grossesse peut vraiment justement arrêter ce cycle de difficultés et faire en sorte que la pré-naissance soit beaucoup plus apaisée, où les choses aient déjà été posées pendant cette période de grossesse, qui, pour le coup, se fait face à soi-même, entre guillemets. Il y a le bébé, mais il est in utero. Mm-hmm. Et donc, il n'y a pas cette question de responsabilité qui est complètement inhérente au rôle de mère. Là, on peut travailler sur soi sans être... pas parasité, ça ne va pas être le terme, mais sans être accaparé par le fait qu'on doit s'occuper du bébé. On peut vraiment avoir un travail de fond qui s'amorce et qui permette éventuellement, pour certaines, de mettre en place un traitement médicamenteux s'il y en a besoin. Pour d'autres, pas nécessairement, mais en tout cas, de préparer ce postpartum avec un relais à la maison ou via la PMI. Enfin, voilà. Je pense que ce moment, le moment clé de la grossesse, il est hyper important en termes d'accompagnement et de prise en charge pour que derrière, ça ne se répercute pas sur quelque chose d'aussi douloureux en postpartum. Et nous, c'est ce qu'on voit pour certaines femmes, il n'y a pas de difficulté en fait en postpartum. Pour d'autres, il y en a parce qu'il n'y a pas eu de prise en charge.
Oui, donc la prise en charge dès les premiers signes pendant la grossesse est primordiale pour atténuer l'effet que ça peut avoir après en postpartum.
Tout à fait. Mais plus on est sensibilisé à l'intérêt, l'importance de la prise en charge holistique, c'est-à-dire le corps et l'esprit sont liés et la maternité, c'est et le corps et l'esprit, plus on va donner autant d'importance aux soins psychiques, entre guillemets, plus on va réussir à faire de la prévention précoce et à éviter des dépressions postpartum, à éviter des problématiques où l'interaction avec le bébé va être altérée, on va retrouver des mamans qui vont avoir une absence de plaisir à s'occuper de leur enfant et donc dans des grandes difficultés qui peuvent être extrêmement paralysantes. Et puis si elles ne sont pas... Je parlais de l'image de la descente, au bout d'un moment, il faudrait mettre un filet et dire stop, on est là, on prend le relais et on va t'aider à remonter la pente. C'est ça que je veux dire.
comment on fait la différence entre des difficultés normales, entre guillemets, qui sont liées au chamboulement de l'arrivée de bébé, et des difficultés plus importantes qui nécessitent une prise en charge.
En fait, déjà, on sait que tout n'est pas difficulté maternelle, fort heureusement. On peut prendre, par exemple, le baby blues qui commence au 3e jour, normalement, en général, qui va durer jusqu'au 15e jour. Environ, hein, c'est toujours bon. Et donc, c'est un temps, le moment du postpartum, le moment de l'après-naissance, c'est un temps d'adaptation, un temps de rencontre, un temps où on adopte ce bébé, entre guillemets. Le terme d'adoption, ça signifie qu'on le rencontre et qu'on commence à apprendre à le connaître. On ne naît pas mère, on le devient. Ça veut dire qu'il y a tout un devenir psychique, il y a tout un processus qui se met en place, qui s'est déjà mis en place en fait pendant la grossesse, mais qui continue, il y a un continuum et qui permet de répondre à ses besoins, il y a une hypervigilance au départ qui est normale entre guillemets, parce que c'est la période de latence où justement on se met en lien avec son rythme, enfin, on arrive à, voilà, il y a des choses qui se jouent de l'ordre du rythme. C'est le process pour devenir parent, il n'est pas comme ça d'un coup, il arrive le bébé et c'est bon, on sait faire. Non, il y a tout un apprentissage. On ne devient pas parent comme ça juste en donnant naissance physiquement. On devient parent par un processus de maturation. Et on peut rencontrer des difficultés dans le postpartum, des difficultés physiques, du fait qu'on vient d'accoucher et que parfois ce n'est pas simple, mais aussi des difficultés psychique, mais plutôt de l'ordre de l'émotionnel, du fait de faire le deuil de l'enfant qu'on avait imaginé, par exemple. On avait rêvé un enfant, on avait rêvé une fille, c'est un garçon, ou à l'inverse. Mmh. On avait rêvé d'un bébé joufflu, en fait, c'est un bébé qui est plutôt petit. On avait rêvé d'un bébé avec plein de cheveux, et en fait, il n'est pas du tout comme ça. Il y a tout un travail de deuil autour de l'accouchement, autour de l'accompagnement, enfin, de la grossesse, de la mère qu'on s'imaginait être aussi, parce que en général, on a quand même tout un imaginaire, quelque chose de fantasmé autour de l'arrivée du bébé. Et généralement, c'est quand même pas tout à fait identique à ce qui se passe dans le postpartum pour des raisons diverses et variées.
Et c'est le fameux instinct maternel dont on a une image d'épinal où on nous dit tout le temps « Non, mais faites confiance à votre instinct, ça va bien se passer ». Oui, enfin,
pas aussi simple que ça.
Quand un bébé naît, voilà, une mère naît également. Et donc, si on considère que le bébé, il est totalement dépendant, vulnérable et qu'il a besoin d'apprendre plein de choses, moi, j'estime que la mère, elle est aussi très vulnérable, très dépendante et qu'elle a aussi besoin d'apprendre plein de choses. Donc, il faut déjà changer le regard, en tout cas sociétal, qui est porté sur la mère. Je pense qu'il n'y a pas de préexistant en termes d'instinct maternel vraiment. C'est très spécifique à chaque femme en plus. On parle plutôt de préoccupation maternelle primaire dans le sens où avec les hormones qu'elle a, enfin voilà, quand le bébé vient d'arriver, il y a beaucoup d'attention qui est tournée vers ce bébé dans les soins, donc que ce soit les soins psychiques, enfin, dans la tête de la maman, le bébé est très présent. Ça ne veut pas dire que l'adoption va être facile. Donc, moi, je ne parlerai pas d'instinct maternel. En plus, ça veut dire que ça soumet à quelque chose qui est inné, qui est facile pour toutes les femmes, alors qu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Nous, on ne parle pas d'instinct maternel. Il peut y avoir un sentiment maternel, un élan maternel, mais par des instincts, ça signifierait nécessairement qu'on ait les données, qu'on soit seulement des mammifères. Sauf que l'homme, l'être humain en soi, il n'est pas que mammifère. Il a aussi toute son histoire, il a son fonctionnement, son libre arbitre, ses pensées. Il y a toute cette conscientisation aussi du rôle de parent. Donc, on n'est pas... effectivement, on n'est pas parent, on n'est pas, c'est pas inné. En fonction de l'enfant aussi qu'on va avoir face à soi, les choses vont bouger. Il n'y a rien qui est défini en fait. Notre place, elle bouge énormément et elle bouge de la naissance à toute une vie en fait. Elle peut bouger parce que cet enfant, il va arriver aussi avec ses particularités, avec ce qu'il est intrinsèquement parlant, avec son histoire aussi de vie, avec un parcours PMA, avec une grossesse, avec une prématurité à la fin, avec peut-être la découverte d'un handicap. Donc, ce qui se joue à ce moment-là, c'est de l'ordre de la rencontre et c'est une rencontre qui va se faire plusieurs fois. Ce n'est pas quelque chose où on va le rencontrer. On peut tomber en amour. Il y a des femmes qui le disent très bien. Au premier regard, elles ont su qu'elles aimaient cet enfant du plus profond de leur cœur. Mais sauf que là, au-delà de l'amour qu'on peut leur porter, c'est bien autre chose qui se joue dans la naissance. C'est aussi se sentir mère, devenir mère et se sentir mère de cet enfant.
Oui, je dirais que c'est même une renaissance, en fait. On est quelqu'un et puis on devient mère et on devient un petit peu quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on vient rencontrer une partie de soi qu'on ne connaissait pas bien. Et puis, je suis d'accord avec Élise, c'est une rencontre qui se fait à deux. C'est-à-dire que le bébé, ce n'est pas un écran de cinéma tout blanc. Il a déjà son histoire, il a déjà certaines choses qui lui sont innées. Et donc, c'est avec cette interaction que les choses vont se faire. Ça va renvoyer forcément à l'enfance, à l'adolescence. Maintenant, on parle de matrescence, hein, beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est un phénomène qui est progressif. Donc, la mère, tout son désir de mère qui se crée depuis l'enfance, qui a évolué au fur et à mesure de l'adolescence, et puis les choses qui ne sont pas réglées vont rejaillir à ce moment-là. Et c'est de ça que va naître cette histoire. Et c'est aussi de là, comme le disait Élise, il y a des mères, en effet, pour qui c'est facile, pour qui l'amour est facile, et puis pour d'autres pour qui des questions non réglées ou parfois des choses dont elles n'avaient pas conscience vont venir rejaillir dans cette nouvelle histoire avec ce bébé qui vient d'arriver.
Vous parlez toutes les deux de cet amour au premier regard. On comprend bien que ce n'est pas le cas de toutes les mamans et de tous les parents. À quel moment on doit s'inquiéter de ne pas ressentir ce lien qui se crée avec son enfant ?
Alors, on parlait du baby blues, en effet, on donne des normes, mais c'est à peu près le baby blues, on dit qu'il ne doit pas excéder au-delà de 15 jours, c'est assez rapide. Donc, au-delà de 15 jours, s'il y a des choses qui persistent, des signes qui persistent, et souvent, quand on regarde vraiment bien, c'est des mamans qui vont demander à l'aide. Alors, ça peut être par des somatisations du bébé, puisque le bébé, il n'est pas en mesure de parler pour le moment. Donc, le bébé, il va souvent somatiser. Ce qu'on appelle par somatisation, ça peut être des signes physiques qui vont venir inquiéter les parents. Mais souvent, quand on réfléchit bien, c'est des mères qui vont venir appeler à l'aide. En tout cas, qui vont solliciter soit des associations, soit des corps professionnels. Mais voilà. Donc, je pense qu'il faut être vraiment très vigilant et très sensible à ça quand on a une maman d'un bébé de 3 semaines, je dirais à peu près à partir de ce moment-là, qui va venir solliciter, soit pour des somatisations du bébé, ou alors dire, mon bébé pleure toute la journée. Alors, parfois, il y a des causes physiques, évidemment, il ne faut pas les écarter, les causes pédiatriques qui peuvent donner ça, ou une maman qui va verbaliser une grande fatigue, ou des choses peut-être où on va se dire, là, elle ne se sent pas très, très bien. On est sorti de la période du baby blues. Et c'est l'accumulation aussi des signes et leur continuité dans le temps qui vont faire qu'on va s'inquiéter. Mais c'est vrai que plus tôt, on va être présent, on va soutenir, plus facile ça va être de voir l'évolution en fait, des choses et des symptômes que la maman va avoir.
Oui, et puis je voulais rebondir juste sur la question de l'amour au premier regard. C'est aussi ce temps-là de la rencontre, de la première rencontre. Il peut être différé pour des causes variées, mais je pense notamment à la césarienne. Toutes les femmes ne rencontrent pas leur enfant quand elles donnent naissance. Et parfois, ça peut se faire 2-3 heures, un jour, 2 jours, en fonction aussi si le bébé arrive en bonne santé. Il peut être aussi transféré, elles peuvent ne pas le voir de suite. Et ça va reporter cette rencontre. Et parfois, cet amour, il peut justement mettre un peu plus de temps à se mettre en place parce que la rencontre ne s'est pas faite la première fois, mais c'est pas grave en soi que la rencontre ne se fasse pas au premier instant. Elle peut se faire dans le temps un peu plus tardivement. Mais ce qui est important, c'est surtout de comment que les femmes effectivement puissent verbaliser que quand elles l'ont rencontré, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été l'amour au premier regard. Et par la suite, c'est quelque chose qui a persisté. Pour certaines, elles le disent très bien. Elles évoquent le fait qu'à la naissance, elles n'ont rien ressenti du tout. Il n'y a rien eu pour cet enfant. Et le verbaliser, c'est déjà lui donner corps à ce sentiment-là. Et c'est aussi proposer à cette femme, même avant, moi je dirais que du moment où on verbalise des choses, il faut qu'elles soient entendues et accompagnées. Et ensuite, voir dans le temps si ça persiste. Et effectivement, c'est la persistance, le côté aussi parfois insupportable des choses qui va faire penser qu'il y a des difficultés qui sont en train de s'installer et qu'il faut prendre en charge rapidement.
D'accord. Par rapport à cette difficulté-là, en quoi la présence ou l'absence du second parent, dans ces moments-là, ça joue sur le lien mère-enfant ?
Moi, je dirais que la présence du coparent, elle est très importante. Alors après, on va retrouver différents types de structures familiales. Mais en tout cas, quand il y a présence du coparent, je pense que ça peut être vraiment un appui, un soutien. Et puis, ça va être la première personne qui va aussi repérer et qui va entendre peut-être les plaintes de la mère ou en tout cas les inconforts, parce qu'on sait qu'on communique beaucoup avec le verbal, mais on communique aussi de manière non verbale. Donc, cette personne, elle va capter, en fait, elle va capter des choses. Et donc, son rôle à elle, enfin, son rôle, et en tout cas, il faut l'y sensibiliser. On parlera sûrement du congé paternité après, mais c'est peut-être de venir faire béquille aussi, de venir soutenir la maman dans ses difficultés, de l'aider, de pouvoir l'orienter peut-être, de l'accompagner en tout cas, aller voir des personnes qui vont pouvoir être aidants à différents niveaux. Et puis, je dirais, alors quand c'est le papa, mais c'est valable aussi quand c'est le coparent, la personne qui n'a pas porté le bébé, il y a une distance émotionnelle qui est forcément différente. C'est-à-dire que quand on a porté un enfant, qu'on se sente mère ou qu'on ait des difficultés au démarrage à se sentir mère, il y a un potentiel émotionnel qui est énorme, qui fait que les émotions sont quand même décuplées, qu'elles soient positives d'ailleurs ou négatives. Et donc, je dirais que ce qui est vraiment important, c'est que le coparent, lui, il va avoir une distance plus grande qui va permettre de peut-être réagir différemment, de peut-être prendre le relais quand ça va être trop difficile pour la mère.
Je vais rebondir ce que tu dis, Élodie, ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que j'ai retrouvé dans la BD de Matou et de Sophie Adriansen qui s'appelle La Remplaçante, c'est aussi que le coparent, le parent, le père ou le coparent, vient légitimer le fait qu'on devient mère. Et à travers son regard, il vient assurer, rassurer des choses parfois qui sont difficiles pour nous. Et en fait, lui, de sa place à lui, distance, il voit aussi ce qu'on est en capacité de faire et il peut nous les montrer, nous les dire. Donc ça, je trouve ça hyper important. Et puis, la présence, le relais du coparent me semble essentiel dans le sens où, alors je pense particulièrement au primipare, mais on parle rarement, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui se prépare peu, le postpartum, pour les primipares particulièrement. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est la sensation qu'on a actuellement. Il y a un impensé pour les parents de se dire, bon, on va se projeter un petit peu et on va se demander comment ça va se passer l'après. Et on va se dire, bon, on a décidé, enfin, ensemble, tu as décidé d'allaiter ou on a pris cette décision de façon conjointe. Comment ça peut se passer, cet allaitement? Qu'est-ce qu'on va chercher comme information autour de l'allaitement? Comment moi, je vais être présent à côté de toi pour l'allaitement? Est-ce que pour les nuits, on se dit qu'on s'organise d'une certaine manière? Est-ce que tu crois qu'on va sûrement réajuster, mais je vais peut-être faire la moitié de la nuit, toi faire l'autre moitié, ou dès que c'est le moment de l'allaiter, je te l'emmène, je me lève, tu ne sors pas du lit. Enfin, voilà. Toute cette question de l'après, qui est peu pensée, je pense qu'elle est juste en fait primordiale pour que justement les difficultés qui peuvent être de l'ordre plutôt de l'organisationnel, mais aussi qui vont impacter l'émotionnel et sur la fatigue ou des choses comme celle-ci, ou même s'occuper de l'aîné. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement verbalisé, organisé. Donc, ça me semble vraiment important qu'on ait pu en échanger là-dessus et que le coparent soit au clair aussi avec ça. Enfin, voilà, qu'on ait mis les choses au point et qu'on se dise, bon, s'il y a besoin de réajuster, on réajuste. Mais si ça fonctionne bien comme ça, tu seras mon épaule et je pourrais m'appuyer sur toi sur tel ou tel sujet.
C'est hyper intéressant. J'ai fait un épisode là sur le baby clash avec le docteur Gébérovitch et il dit ça aussi pour les relations de couple. Il dit qu'en fait, le fait de préparer tous ces aspects organisationnels et d'en discuter avant l'arrivée du bébé, ça permet dans la majorité des cas d'éviter ce fameux baby clash et que ce baby clash se transforme en un clash plus important encore. Et donc au-delà de la difficulté maternelle, c'est la difficulté du couple qui peut être mise à mal et qui du coup peut être un peu diminuée si on anticipe toutes ces discussions-là, effectivement.
En effet, il y a un lâchage, un trou dans la raquette à ce niveau-là qui est clairement évident. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis au collectif, je suis infirmière puéricultrice, c'est parce qu'on espère qu'un jour, pris en charge par le gouvernement, soit offert aux parents la possibilité, juste après l'intervention de la sage-femme par le Prado, l'intervention de puéricultrices de ville qui vont venir aller interroger tout ça, et aussi le côté organisationnel et dans le couple, et aussi dans ce qui peut être matériel de puériculture et autres. Parce qu'en effet, plus on est prévenu, plus on sait quels sont les besoins aussi du bébé. Parce que voilà, dans la société, on nous dit qu'un bébé à 5 mois, ça fait ses nuits. La réalité est quand même très différente des choses. Après un an, il y a 50% des bébés qui ne dorment pas encore. Je veux dire, plus les parents sont prévenus par rapport à beaucoup de choses et ont les outils nécessaires pour y faire face, plus ça peut diminuer et des conflits de couple et des difficultés maternelles. Et en tout cas, les parents sauront aussi vers qui se tourner en cas de problème plus important.
Mais justement, qu'est-ce qu'il y a qui existe pour les parents dans ces cas-là, quand on sent que ça ne va pas, ou juste quand on en a besoin, en fait, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça aille pas pour faire appel à ces ressources-là, c'est même mieux si on anticipe, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition quand on devient parent pour faire tout ça?
Je tiens à souligner quand même, là, justement, on fait un podcast, hein, Élise, en place, c'est quand même vraiment une association d'intérêt public. Alors, il n'y a pas que ça, je vais détailler après, mais je veux dire, l'association Maman Blues, c'est quand même quelque chose de super qui permet d'offrir un espace de parole aux mamans. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans. Hein, on voit beaucoup de témoignages de mamans qui ont trouvé beaucoup de réconfort dans cette association. Donc déjà, il y a des travails associatifs qui existent en France. Après, à la sortie de maternité, normalement, donc je vous parle des infirmières puéricultrices de ville, mais ce n'est pas encore démocratisé et ce n'est pas encore gratuit. Mais j'espère qu'un jour, on y viendra. Mais il y a aussi les PMI. Donc, dans les PMI, c'est des équipes pluridisciplinaires avec des sages-femmes, des psychologues, des infirmières puéricultrices, des médecins, parfois des auxiliaires de puériculture. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui est expliqué à la maternité ou expliqué par la sage-femme du Prado. Et là-bas, les mamans, les parents vont pouvoir trouver des espaces où peser leurs enfants, mais aussi des espaces de parole, des accueils parents-enfants parfois, où les enfants vont pouvoir jouer, enfin des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses de proposer en PMI. La PMI, ce qu'il y a, c'est que ça touche environ 15% des parents en France, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller en PMI parce qu'ils les associent à la protection de l'enfant, enfin voilà, et puis parce que la PMI a d'autres rôles et d'autres missions et qu'elle ne peut pas couvrir toutes les naissances en France. Après, il y a aussi, pour vraiment, quand on va identifier des problématiques, ça peut être les sages-femmes, ça peut être aussi la famille, hein, il y a ce qu'on appelle les unités spéciales d'accueil mère-bébé, où il y a une hospitalisation qui est possible, et là où on va prendre en soin, dans tous ces aspects, la maman et le bébé en hospitalisation conjointe. Pareil, des équipes pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires qui vont, alors ça va être des séjours plus ou moins longs, le temps que la maman retrouve les ressources nécessaires et aussi prenne soin d'elle pendant ces temps-là. Il y a aussi les lieux d'accueil parents-enfants. Donc, par exemple, à Dijon, on a la Marine. Alors, c'est pour les enfants qui viennent de naître jusqu'au 1 an. Et en fait, c'est un espace où les parents peuvent venir avec leurs enfants, se poser, manger là-bas, faire jouer leurs enfants et puis discuter, parler des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et parfois, en cas de difficulté maternelle, ça peut être, par exemple, la PMI qui va orienter vers cet espace-là. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait bien du relais et du maillage entre les différents intervenants, entre les associations, les PMI et les services de soins existants.
Alors, la difficulté aujourd'hui des unités mère-bébé, c'est le nombre de places, qui est d'environ de 80 à 100 places d'hospitalisation sur la France entière. Donc, c'est extrêmement limité. Grosse difficulté à pouvoir prendre en charge toutes les femmes, sachant que toutes n'auront pas besoin d'une prise en charge en unité. Mais si on en fait la demande, ça peut être compliqué d'avoir une place dans des délais courts. Grâce, je dirais quand même, au rapport de la commission des 1000 jours qui a été rendu en septembre 2020, il a été préconisé la création d'une dizaine d'unités mère-bébé sur le territoire. Donc, ça ne sera pas immédiat, mais nous espérons bien que ça va pouvoir se mettre en place. Quand il n'y a pas de place en unité mère-bébé, alors certaines font du temps plein et d'autres font l'hospitalisation de jour et d'autres proposent les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines proposent aussi des consultations directement sur place sans hospitalisation. Donc, ça, c'est important de savoir qu'on peut aussi consulter sur les unités mère-bébé. Pas toutes, mais certaines. D'autre part, quand il n'y a pas d'hospitalisation, à domicile, on peut faire appel à une TISF, une technicienne d'intervention sociale et familiale. Ce sont des personnes qui sont formées à intervenir dans les familles lors de changements de vie, de difficultés passagères. Les prestations sont calculées en fonction du quotient familial et en fait, il y a un premier rendez-vous avec l'équipe, enfin, une TISF et la personne responsable de l'équipe de TISF pour définir les besoins et le temps d'intervention au domicile. Et elle va pouvoir intervenir 1-2 heures par semaine, voire parfois plus. Après, plus le quotient familial est élevé, plus le tarif horaire sera élevé aussi. Donc, parfois, c'est compliqué de mettre en place ce dispositif-là, mais ça existe. Après, elles ne sont pas assez nombreuses. Je dis « elles » parce que c'est assez souvent des femmes, mais elles sont très peu formées à la périnate, un petit nombre. Et donc, ce serait aussi important qu'elle puisse, qu'il puisse y avoir un nombre un peu plus conséquent de personnes formées dans l'intervention. Je pensais aussi aux équipes, les unités mère-bébé. Il y a aussi des équipes mobiles qui se déplacent au domicile, qui font des visites à domicile avec une équipe pluridisciplinaire aussi, et qui évite, si je puis dire, qui est une manière détournée d'hospitalisation. En tout cas, ça permet d'être à son domicile et de ne pas être prise en charge sur une structure dédiée. Ça permet parfois aussi de garder des repères, en fait, parce que la perte de repères est importante pendant ces périodes-là. Et l'hospitalisation peut faire peur, justement, parce qu'on va devoir intégrer un nouveau lieu et où on n'est pas... On a... Déjà, le terme d'hospitalisation est stressant. Ça fait peur d'être hospitalisé. Donc, de se dire qu'on peut rester chez soi avec une équipe mobile qui se déplace, c'est quand même assez précieux. Après, il n'y en a pas non plus énormément. Et puis, oui, on n'a pas rebondi non plus sur tout ce qui est libéral. Il y a les psychologues libérales avec une étiquette périnate. Il y en a quand même un certain nombre qui sont formés. Ça peut... En fait, tout ça, je pense que ce n'est pas juste une chose. Comme le disait Elodie, c'est aussi quelque chose où les acteurs, les intervenants vont rentrer en lien pour proposer un étayage conséquent et qui soit le plus adapté, le plus, au plus près des besoins de la femme, du bébé et du couple, en fait, le couple parental. Donc, ça peut être la TISF à domicile quand la mère n'est pas prise en charge à l'unité mère-bébé. Ça peut être l'unité en même temps avec un suivi en libéral à côté pour aller travailler sur pourquoi cette naissance est difficile et qu'est-ce que ça génère en soi. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui se construit autour de la femme, autour du couple parental et du bébé pour pouvoir proposer vraiment quelque chose qui soit très, très conséquent. Alors, pas en termes de beaucoup d'interventions, mais qui ait un impact fort dans l'amélioration de la situation. Après, sur la question de l'information aux parents, moi, je vais plus loin. Je pense qu'on est sur... c'est de l'éducation, en fait. Pour moi, ça, c'est primordial d'en parler bien plus tôt que ça. Du moment où j'aurais tendance à dire au collège, peut-être plus le lycée, les enfants apprennent le cycle reproducteur, ils voient comment on fait les bébés et tout ça. Mais surtout ce qui est... une fois qu'on a un bébé, ça fait quoi d'avoir un bébé? On n'en parle pas du tout aux ados. En général, la découverte qu'ils font, c'est quand ils deviennent eux-mêmes parents ou quand ils vont éventuellement s'occuper de leur petit cousin, mais ça ne sera jamais leur enfant, donc ça sera toujours différent. Moi, je vais vraiment sur la partie éducation, en disant que, en fait, montrer aux gens, et ça se fait dès le plus jeune âge, que devenir parent, ce n'est pas inné et que ça peut être compliqué, c'est important pour qu'il n'y ait pas tout ce fantasme autour de la maternité, de la parentalité. Et en se disant, effectivement, devenir parent, c'est très ambivalent, ça met en branle plein de choses, c'est très agréable parfois, c'est beaucoup de bonheur ou pas, ça peut être aussi très très difficile, et c'est tout est ok en fait. C'est en fait sortir de ce truc où il n'y aurait qu'une vision, un truc hyper unilatéral, il n'y a que ça, la maternité égale bonheur. Non. La maternité, c'est plein de choses. La parentalité, en général, c'est bien plus que ça, en fait.
J'ai une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 2 ans. Et j'ai été puéricultrice avant d'avoir mes enfants, mais je vous rejoins complètement et totalement. Il y a un pédiatre qui me disait récemment, je pense qu'il faudrait faire des entretiens même en préconceptionnel, enfin des séances de préparation en préconceptionnel. Donc lui aussi, il a identifié le vrai manque. Et même si on a des informations, en fait, quand on devient parent, on n'est que parent, on n'est pas professionnel. Et il y a des choses qu'on a besoin de revoir, qu'on a besoin d'entendre, on a besoin d'être reguidé et donc oui, la sensibilisation et l'éducation au plus jeune âge, je suis ultra pour aussi.
Et tu pointes le doigt sur quelque chose d'hyper important, c'est que justement, quand on est professionnel de santé, on est censé savoir. Et pour les femmes qui vivent des difficultés maternelles, quand elles sont professionnelles de santé, c'est extrêmement difficile d'aller chercher de l'aide. Souvent, elles consultent très éloignées de chez elles pour éviter de tomber sur leurs collègues. Donc ça veut tout dire. Ça signifie qu'en fait, elles sont censées savoir, donc elles n'ont rien à en dire. Et ça, je trouve ça extrêmement violent pour celles qui vont se retrouver dans cette situation, parce que ça va ça va avoir un impact sur la prise en charge, sur la mise en place de cette prise en charge, quand est-ce qu'elle va se mettre en place, parce qu'elle va se faire souvent très tardivement, parce qu'on essaye d'attendre au max en se disant, bon, j'ai les billes, je suis pro, je fais savoir-faire. Non, en fait, on est juste parents à ce moment-là. Et le côté pro, bah, il disparaît. Et en suivant toute notre histoire, c'est ça qui ressurgit. Et ce n'est pas d'avoir des savoirs professionnels ou des compétences qui feraient qu'on nécessairement on saurait comment faire.
Ok, j'ai une dernière question parce qu'on a beaucoup parlé de la mère et du coparent. Comment réagit le bébé dans tout ça, quand ça se passe, quand la maman est touchée par la difficulté maternelle?
Alors, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Hein. Les bébés, c'est vrai que c'est des êtres de sensation qui captent beaucoup, beaucoup de choses, qui captent tout. Hein. Faut savoir que tout à l'heure, on parlait de communication. Donc, le conscient, il capte 5 à 9 informations en même temps. L'inconscient, il peut en capter 10 000. Donc, les bébés, il faut savoir qu'ils captent vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce qui est non-verbal, dans ce qui est... pas forcément dans ce qui est communication verbale, pardon. Et donc, les ressentis de la mère, ils vont tout de suite être très au clair avec tout ça et les soins qui vont être faits, peut-être avec un manque de plaisir de la part de la mère qui va être en difficulté maternelle ou les regards dans le vague, tristes, ou toutes les sensations négatives qui vont être éprouvées par la mère, les bébés, ils vont les capter. Et donc, forcément, le bébé, lui, il ne peut pas parler à la naissance, donc il va souvent somatiser. C'est-à-dire qu'il va venir parler avec son corps à la maman et lui expliquer des choses. Donc, ça peut être des cas où on va retrouver des enfants, les parents qui vont avoir des pleurs peut-être plus importants que chez d'autres bébés, des bébés où on va venir parler de maux digestifs pour ne pas parler de coliques, ou des bébés avec des régurgitations, des choses comme ça où le bébé va venir parler. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien distinguer les causes qui peuvent être pédiatriques des causes somatiques. Mais en tout cas, le bébé, à sa manière, il va venir témoigner du mal-être de la mère. Il va venir donner des informations. Et c'est ce à quoi aussi il faut être sensible, c'est-à-dire que c'est un couple, c'est même un trio avec le coparent, bien évidemment, mais ça arrive quand même souvent qu'on voit que la maman avec le bébé, parce que le papa, il est au travail. D'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus deux secondes, mais je pense que c'est de là aussi que naissent des problèmes de couple et des inégalités, et que plus long serait le congé du coparent, plus ça laisserait de place pour prendre un rôle plus égalitaire, pour que le coparent adopte le bébé, et que du coup, le couple se comprenne aussi mieux. Et donc là, quand on est en consultation et puis qu'on reçoit des mamans et des bébés et puis qu'on entend, pas forcément la mère qui se plaint de ce qu'elle peut ressentir, mais qu'elle exprime des difficultés avec son bébé, là aussi, il faut avoir un regard attentif et aller entendre ce que le bébé va dire.
Ce qui est difficile aussi pour les femmes, souvent, d'entendre, c'est que justement, les bébés sont des éponges émotionnelles, physiques, et que ce qu'elles peuvent vivre va les impacter directement. Donc oui, effectivement. Nous, ce qu'on dit tout de suite derrière, c'est aussi qu'avec un accompagnement adéquat, cet enfant, il va pouvoir s'exprimer, et cette mère, elle va aussi pouvoir s'exprimer, et que le lien va pouvoir se tisser en essayant, avec le plus de possibilités possibles, de mettre à distance ce qui vient parasiter cette construction du lien. Il y a aussi des bébés qui montrent des... ce qui est intéressant, c'est les enfants qui sont des enfants, par exemple, qui vont être totalement absents à la relation. Des enfants qui dorment beaucoup, 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 beaucoup. ils se font presque oublier pour justement que la mère ne se retrouve pas trop en difficulté à s'occuper d'eux. Ça peut être des enfants qui ont des grosses difficultés au niveau de l'alimentation. Des troubles du sommeil. Il y a déjà des enfants qui montrent des troubles très tôt. Moi, pour le coup, ma fille a montré des troubles alimentaires et des troubles du sommeil assez rapidement parce que j'avais fait une dépression pendant la grossesse, donc in utero, elle avait déjà bien souffert. C'est aussi des enfants qui vont avoir de l'eczéma, par exemple, beaucoup d'eczéma. C'est aussi, à contrario, des enfants qui vont être hyper toniques, qui vont marcher super tôt, à 9-10 mois, ils sont au taquet. Donc, il y a quand même des choses qui viennent effectivement quand la mère n'est pas en capacité de mettre en mots, de verbaliser. Un enfant, quand on observe et la relation et l'enfant seul, on voit des choses. Et ce qui est intéressant, c'est sans être dans la culpabilité, sans être dans le jugement du parent, de la mère, là, c'est de dire, il y a des choses qui nous interrogent. Votre bébé, il pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est comme ça tous les jours? Comment vous arrivez à gérer ces pleurs? Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que vous avez de l'accompagnement? Est-ce qu'on peut vous proposer quelque chose? Parce qu'en fait, du moment où on va aller dire que c'est de votre faute, du moment où on va culpabiliser, du moment où on va dire « mais il faut se bouger en fait, là vous êtes maman, vous l'avez voulu, il faut l'assumer, maintenant vous faites en sorte que… » et votre bébé, il aura moins à souffrir. Non, il faut être dans de l'accompagnement bienveillant si possible, de l'écoute. Et puis, partir aussi de… je pense à une professionnelle qui parle souvent de ça, de la neuroplasticité du cerveau des bébés et de dire « voilà, votre bébé, si l'interaction ne se fait pas, il y a certaines zones du cerveau qui réagissent de cette manière. Mais quand l'interaction se fait, ça change les choses. Alors, peut-être qu'avec un accompagnement qu'on va vous proposer, ça va faire évoluer les choses positivement. Et puis, votre bébé, il va être plus dans l'interaction parce que c'est les bébés qui sont complètement en retrait. On le voit clairement. Enfin, c'est des bébés qui ne sont pas dans le regard, qui ne posent jamais le regard sur leur mère ou très peu, qui sont peu dans l'observation. Des bébés qui sont peu portés aussi, parce que la mère n'est pas en capacité de les porter. En fait, dans l'observation de la diade, on voit énormément de choses, mais il faut y être formé.
Oui, et puis l'idée, ce n'est pas de dire que c'est la faute des mères si les enfants sont comme ça, mais plutôt de se dire que c'est important de connaître les signes qui permettent aussi de potentiellement alerter, de réajuster, et du coup d'aider toute la famille, y compris la maman et le bébé, et que quand il y a une prise en charge, ça permet quelque part de réorganiser, et j'allais dire de réparer, je crois que c'est pas le mot, mais en tout cas de reformer quelque part ce duo-là, et que c'est pour ça que c'est important de aussi mentionner les signes qui peuvent apparaître chez les bébés.
C'est pour ça que la prévention précoce, elle est primordiale et super importante, parce qu'en fait, plus tôt c'est pris en charge déjà, plus les choses vont pouvoir se régler. À partir du moment où la maman, elle va sentir que on va lui passer un message implicite en lui disant on est là, on va vous aider, en fait, vous avez des difficultés, on est là pour ça, et on n'est pas là pour porter quelques jugements que ce soit. Bien évidemment que la relation, elle peut s'améliorer, s'améliorer, je ne sais même pas si on peut parler d'amélioration, mais bien évidemment que la relation va se nouer en tout cas plus facilement entre le bébé et sa maman, et ça n'aura pas forcément des répercussions sur le lien mère-enfant ou sur le développement du cerveau. On est souvent, moi je trouve, et je parle peut-être à titre personnel, mais je trouve qu'on est, par les nouvelles découvertes au niveau des neurosciences, de la neuroplasticité, ça culpabilise encore plus les parents, à quel point leurs comportements, leurs actions ont des répercussions ou peuvent potentiellement en avoir. Donc c'est vrai que là, il va falloir faire très très attention pour déculpabiliser et puis bien informer en disant qu'en effet, il faut juste que le bébé, la maman et le coparent soient pris en soin et tout rentrera sûrement dans l'ordre. Après, il y aura besoin des fois d'un temps très court et puis d'autres fois d'un temps plus long, mais je pense que c'est important. Enfin, je rejoins tout à fait les mots d'Élise. Hein. Pour moi, un soignant ou un accompagnant parental, en tout cas les personnels qui gravitent autour de ces situations-là, se doivent de ne pas être dans la toute-puissance, se doivent de vraiment avoir en tête de vouloir créer des sensations positives aux personnes qui prennent en soin. Ça me paraît primordial.
Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi de se rendre compte que, qu'un tiers neutre, indépendant de la famille, du corps famille, apporte souvent une aide totalement différente, en fait. Il vient avec sa place de professionnel, quelle qu'elle soit. Et ce tiers-là, je trouve qu'il a vraiment une... Ça peut être un tiers ou un ensemble de tiers, bien évidemment. Mais ça permet de sortir de ce huis clos où on est enfermé avec ce bébé et où on voit que ça, en fait. Parfois, on est consciente qu'on va mal. Hein. On a clairement les signes, on se connaît bien, on sait que c'est compliqué, mais on ne sait pas comment. Et ce tiers, cet ensemble de tiers ou ce tiers-là qui va venir, il va permettre justement à un moment donné de faire « bon, ok, là c'est compliqué ». Mais pour autant, ce n'est pas parce que c'est compliqué que les choses elles peuvent pas se mettre en place, que vous n'avez pas des pistes de travail, qu'on peut ne pas vous aider. En fait, si, on peut tout ça. Il faut juste qu'on arrive à rentrer en lien avec vous, parce que parfois c'est compliqué pour certaines femmes. Et puis, c'est de la question du lien de confiance. D'instaurer un lien de confiance, c'est important. Et des deux côtés. Ça doit être un lien qui se fait, qui se tisse et qui se construit des deux côtés. Et pas seulement le professionnel qui arrive avec son savoir et qui va donner des informations. Non. On est à égalité, on est à l'horizontalité. Et maintenant, on va poser des choses ensemble et on va voir comment ça évolue. Et ça me semble important de le rappeler que... on a aussi des ressources, on a aussi des savoirs, et que même quand on est en difficulté, on peut aller mobiliser ces ressources et ces savoirs.
Ouais, le parent, c'est un vrai acteur de soi, en fait. C'est un partenaire de soi. Donc, la notion d'horizontalité me paraît primordiale. C'est comme avec... Moi, je suis prof, entre guillemets, c'est comme avec les... J'ai vraiment cette notion aussi, chacun apporte des choses. C'est une relation à deux. Donc, moi... quand je suis face à une maman qui éprouve des difficultés ou à un élève qui, voilà, je lui donne des choses, mais elle me donne des choses aussi en échange, et on interagit, on apprend ensemble. Et il ne faut pas oublier que malgré tout, hein, les professionnels ont des connaissances, mais c'est les parents qui savent mieux, enfin les mamans et les papas et les coparents qui savent mieux certaines choses, en fait, de par instinct, de par leur sensation. Les bébés sont des êtres de sensation, mais nous le sommes aussi puisque c'est notre histoire, hein. On a grandi, mais l'enfant qui est en nous est toujours très présent. Et donc du coup, quand on va en consultation, par exemple, ou que je rencontre des mamans en consultation, on a besoin d'entendre résonance à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'on peut penser, à le verbaliser, à ce que ça devienne vraiment réel, à ce qu'on ait des voix pour le comprendre.
Bah, écoutez, c'est très intéressant. Moi, je suis très, très intéressée par tous ces sujets, évidemment. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que je m'étais notées. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en conclusion ?
Quelques mots. Après, je dirais, voilà, bienveillance et non-jugement, deux valeurs primordiales pour guider, prévention précoce un maximum, développer l'offre de soins en France, parce que c'est vraiment un axe, un enjeu de santé publique, un investissement sur l'avenir. Je le dis en tant que mère de deux jeunes enfants avec 16 mois d'écart, je le dis en tant qu'infirmière puéricultrice, je le dis en tant que cofondatrice du collectif Je suis infirmière père. J'aimerais que dans 10 ans, j'aimerais que dans moins longtemps, on puisse avoir des offres de soins gratuites pour diminuer les inégalités sur le territoire, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que ce qui est payant, bah, ça profite à certaines catégories socio-professionnelles. Donc, je salue, et c'est pour ça que je suis très, très contente de faire ce podcast avec Lise, je salue le travail d'associations comme celle d'Élise, qui sont extrêmement bénéfiques pour beaucoup de femmes.
Merci, Élodie. Moi, je finirais surtout en disant que ce travail, c'est un travail de fourmi. J'espère aussi que les choses évolueront bien plus rapidement qu'elles n'ont évolué ces dernières années, cette dernière décennie. Il y a quand même un certain nombre de professionnels de santé et beaucoup de parents qui aujourd'hui prennent la parole et ont envie, en fait, aussi. Parce que tu parlais tout à l'heure de citoyenneté, d'acte citoyen. Pour moi, c'est un acte citoyen, en fait. Du moment où l'enfant naît, il y a vraiment un partage, un échange, quelque chose à apporter. Et je pense que si on développe toute cette partie-là de le postpartum, alors pas que le postpartum, hein, d'ailleurs, ça, c'est plutôt une globalité, mais en tout cas, penser le postpartum, en plus de tout le reste, ça permettra aux parents et aux enfants de prendre un chemin plutôt serein, même s'il y a toujours des difficultés, quelles qu'elles soient, on en rencontre tout le long de sa vie. Et puis, ça permettra d'ouvrir encore plus la voie. La voie VOIE et la voie VOIX, parce qu'on se rend compte que plus on parle et plus il est facile aux autres de parler. Donc pour moi, c'est voilà. Du moment où j'ai pu commencer moi à témoigner, ça a aussi été salvateur pour moi, mais aussi pour les autres qui m'entendaient.
Ça me semble une belle conclusion. Merci beaucoup les filles.
Merci.
Cet épisode touche à sa fin. L'épisode 30 sur le baby clash avec le docteur Gébérovitch dont je parle est bien sûr toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'association Maman Blues propose de nombreux relais locaux. Tu pourras retrouver celui le plus proche de chez toi sur le site www.maman-blues.fr. Pour retrouver les accompagnements proposés par Élodie et ses collègues, rendez-vous sur leur site internet www.myjoliefamily.fr. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyla Tsinis.
Kayla Itsinis. I'm Kyla Itsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.